midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dessus de table, émission qui met les pieds dans le plat, mais sans Philippe Robichon aujourd'hui qui n'a pas pu être des nôtres. Alors ça nous fera un peu moins de pieds à mettre dans le plat, mais on aura au moins un peu plus à manger. Allez, aujourd'hui on parle de cuisine fusion. Alors en quoi ça consiste? Quand et comment est-elle apparue? La cuisine fusion est-elle toujours à la mode? Alors pour faire cette revue de détails, aujourd'hui nous accueillerons deux invités. Roland Durand d'abord, chef cuisinier et meilleur ouvrier de France 82. Alors Roland n'est pas encore dans les studios parce qu'il est dans les embouteillages, il nous rejoint dans un petit instant, mais on est ravis de l'avoir parmi nous, d'autant que depuis quelques années il vit majoritairement en Thaïlande. Et puisqu'on parle de Thaïlande, c'est la transition idéale pour accueillir notre deuxième invité, puisqu'il s'agit du chef Ot Somphat, propriétaire du restaurant Ban Nat à Arcueil. Alors bonjour, ou plutôt sawadi, Ot Somphat.
Ça va dire crap.
Bienvenue à vous.
Bonjour. Voilà.
Alors, quand on parle de cuisine fusion, en général, la cuisine fusion, c'est de la cuisine française qui va piocher un petit peu dans les épices du monde entier. Alors, pourquoi je vous ai invité, vous, qui êtes un chef qui fait de la cuisine thaïlandaise? C'est parce que vous êtes un petit peu le contre-pied de la cuisine fusion, parce que vous faites effectivement de la cuisine thaïlandaise, vous êtes un chef réputé en termes de cuisine thaïlandaise. On parlera un peu de votre parcours tout au long de l'émission. Mais vous, ce que vous faites, c'est que vous faites de la cuisine thaïlandaise authentique, mais avec des techniques et des présentations, des dressages, comme on dit, hein, en termes professionnels, qui s'apparentent à de la grande cuisine française. Alors, comment est-ce qu'on fait un mix de tout ça? Parce que la cuisine thaïlandaise, c'est une très bonne cuisine, mais qui est souvent très populaire, hein, qui est très street food. Hein, en Thaïlande, on peut manger dans pratiquement toutes les rues, on peut manger un pad thaï ou une soupe. Comment est-ce qu'on fait le lien entre une cuisine populaire, thaïlandaise, populaire, traditionnelle, et puis des dressages, parce que vous faites des assiettes très graphiques, très belles, avec beaucoup de couleurs. Comment est-ce qu'on fait évoluer sa cuisine comme ça?
En fait, au départ, comme j'ai rencontré les chefs étoilés, tout ça que j'ai eu, que le plat, ça donne envie de manger. Dès qu'on voit, moi je pense que on mange avec l'œil d'abord, et après c'est les goûts, les parfums, tout ça, c'est pour ça, ça les donne des idées. Et j'ai dit, écoute, ben, pourquoi notre cuisine thaï, on a l'avantage, on a les saveurs, on a les goûts, on a tous les parfums. Et c'est pour ça que j'ai commencé, là, je vois les techniques, je prends les techniques des gastronomiques français, et je travaille un peu avec les thaïs, avec ma cuisine. Et la couleur, tout ça, je fais la couleur, tout ça, je travaille plus avec les fruits et légumes. En fait, c'est pour mélanger, ça donne les couleurs. Par exemple, pour le rouge, je vais faire poivron rouge avec les betteraves, c'est mélangé.
Et le curry rouge, d'ailleurs, la cuisine thaïlandaise est une cuisine très colorée, ne serait-ce qu'au niveau des currys. Ouais. Hein. Il y a le curry vert, il y a le curry rouge, il y a le curry jaune. Voilà. Et puis même des alors on peut pas parler de curry, mais on arrive presque à des currys un peu presque noirs, marron, quand on parle de massaman, par exemple.
Ouais, le massaman, oui, c'est les pâtes épices. Torréfié déjà.
D'accord.
Et
ouais.
C'est pas frais, c'est déjà torréfié en fait. Et si les curry verts, c'est les. On dit pas curry vert, normalement, c'est des épices, pas des épices plutôt.
Oui, voilà. Avec beaucoup de. De la coriandre, du piment vert.
Le vert, on travaille avec piment vert et avec l'ingrédient, il y a du l'ail, citronnelle, il y a tout, galanga, tout ça. Avec des coriandres, ça donne un peu les couleurs vert et le piment vert. Le rouge, c'est le même ingrédient, mais sauf c'est avec les piments rouges.
Alors, ouais. Justement, ce que vous dites, c'est assez intéressant parce que vous êtes arrivé, vous êtes arrivé en Belgique à la base, hein, vous êtes thaïlandais, ouais. Mais vous avez commencé votre carrière en Belgique. Dans les années 80, vous êtes un jeune chef basé à Bruxelles. Et à cette époque, on ne trouve pas forcément tous les ingrédients de la cuisine thaïlandaise en Europe. Alors, comment est-ce qu'on arrive à préparer une cuisine authentique quand on n'a pas tout ce qu'il faut sous la main? Comment on fait? On s'adapte? On crée ses propres filières d'approvisionnement?
Il y a une partie quand même. Le restaurant que je travaille à Bruxelles, ils ont fait venir quand même le produit. Une fois par semaine, par l'avion.
On peut le citer, c'est le Blue Elephant, comme ouais. C'est un groupe. Il y a des Blue Elephant, ils ont des restaurants indiens aussi.
Et ils ont indiens aussi, voilà. Tout ça.
Et du coup, ils ont créé, même pour les fleurs, je crois, hein, au
Blue Elephant, ils ont emmené tout.
Les plantes venaient de Thaïlande.
Voilà, on a emmené tout en Thaïlande. Il y a une partie produit local, on a trouvé ici local même. C'est du poisson, la viande, tout ça, on ne peut pas faire venir parce que sinon vous avez tout congelé. Voilà. Mm. Tout ça, mais c'est que légumes, les épices, tout ça, on fait venir tout ça.
Oui, parce que la cuisine thaïlandaise, c'est une cuisine de produits frais et de produits de saison. Hein. C'est une cuisine effectivement très, très fraîche. Et comme il y a beaucoup d'aliments crus dans la cuisine thaïlandaise, la fraîcheur des produits est quand même absolument importante.
Les cuissons, on fait toujours dernière minute, en fait. On ne fait pas l'avant.
Oui, à part le massaman, justement,
il faut masser la viande ou le d'agneau, quelque chose comme ça, qui absorbe le curry.
Oui, alors le massaman, pour nos auditeurs, hein, c'est un plat d'agneau, généralement, mais on peut le faire aussi avec d'autres viandes. Mais
oui, on peut
c'est
faire
un plat
tout.
D'agneau mijoté très longuement, hein, c'est ça.
Hein. On peut faire avec la viande, avec les volailles aussi.
Il y a quelques ethnies musulmanes en Thaïlande. Est-ce que le massaman, c'est un plat de cuisine musulmane thaïlandaise?
Oui, les currys, normalement, c'est là-bas, ça vient de Thaïlande au sud.
D'accord.
Il y a beaucoup les musulmans, tout ça. Là. C'est ça que ça vient de là, les cuisines, les currys.
Alors, si je vous pose la question, c'est pas un hasard, parce que quand on goûte le massaman et qu'on connaît un peu la cuisine du monde, moi, ça m'a fait penser à des plats, justement, qu'on trouve au Maroc, par exemple, la mourousia, qui est un plat d'agneau aussi, mijoté très longuement, un petit peu comme le massaman. Et puis, on trouve aussi le rendang en Indonésie, hein, qui est aussi un plat, alors là, qui se fait plutôt avec du bœuf, qui est un plat mijoté très longuement aussi, avec le même type d'épices. Est-ce que les religions comme ça, ou les migrations au fil du temps, a créé une mixité dans la cuisine? On peut parler de cuisine fusion déjà à ce moment-là.
Pour moi-même, oui, on parle déjà ça, parce que c'est là-bas, ça vient de là, hein, c'est là-bas, là, c'est les mêmes épices, en fait. Ils sont faits, ce soir, on se trouve à Maroc ou à Malaisie ou Indonésie, on utilisait les mêmes épices déjà.
Bon, très bien. Alors, on parle de cuisine fusion jusqu'à 13h dans Dessus de Table sur Beurre FM. Si vous avez des questions à poser à nos chefs, alors d'abord à Aude Sombat et puis à Roland Durand quand il sera arrivé d'ici un court instant, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000. Je répète, 01 53 48 3000 si vous avez des questions à poser sur la cuisine fusion ou sur la cuisine thaïlandaise à nos chefs. Voilà. Alors, donc là, vous, aujourd'hui, Aude Sombat, vous avez ouvert il y a un an à peu près, je crois,
ouais,
un restaurant qui s'appelle Ban Nat. Alors, Ban Nat, ça veut dire la maison de Nat. Nat, c'est votre épouse qui est avec nous sur le plateau, d'ailleurs. Elle viendra peut-être nous dire bonjour, si elle n'est pas trop timide, dira peut-être bonjour au micro tout à l'heure. Alors, donc, Ban Nat, c'est 61 Avenue La Place à Arcueil. Alors, chez Ban Nat, est-ce que vous diriez que vous êtes un restaurant de cuisine thaïlandaise, ou de cuisine thaïlandaise moderne, ou de cuisine fusion? Comment vous décririez votre cuisine?
Moi, c'est cuisine plutôt moderne.
Ouais. Oui, thaïlandaise moderne, revisitée un petit peu.
Revisitée, oui.
Oui, comme je le disais, en fait, vous faites de la cuisine thaïlandaise traditionnelle, c'est-à-dire qu'à votre carte, il y a des plats traditionnels thaïlandais, comme le tom yam. Le tom yam, c'est la soupe.
Tiki bleur.
Voilà,
ou le pad thaï.
Pad thaï, voilà. Qui sont les plats les plus connus dans la cuisine thaïlandaise. Mais, alors, allez sur le site internet du Ban Nat. Alors, ça s'écrit B-A-A-N, plus loin, N-A-T. Vous tapez Ban Nat Arcueil sur Google, vous allez trouver le site. Et il y a des photos de vos plats. On n'a pas du tout l'impression. On a plus l'habitude des pâtes thaï en mode street food dans un petit plat en carton. Quand on voit vos assiettes, on se dit c'est un chef étoilé qui a fait ça. Vous avez vraiment un dressage avec des couleurs, c'est graphique. Quand on déstructure un peu le plat pour faire presque une œuvre d'art dans l'assiette, est-ce que ça change le goût du plat, ou est-ce qu'on garde le goût authentique du plat?
Non, ça change pas. Ça donne encore plus. Ça donne parfum en plus.
Oui, vous sublimez un peu. Et puis c'est vrai, comme vous le disiez, on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec ses papilles gustatives. Et donc c'est vrai que quand une assiette est belle, ça met en appétit et on mange avec beaucoup plus de plaisir. Et j'ai eu la chance à votre ouverture de dîner au Ban Nat, et c'est vrai qu'on y mange une très bonne cuisine. Enfin bon, c'est pas là que j'ai découvert votre cuisine, puisqu'on en parlait en préparant l'émission. Ça fait on se connaît depuis 20 ans. Moi, je vous ai connu au Blue Elephant à Paris. hein, Blue Elephant. Alors, bon, aujourd'hui, le Blue Elephant, c'est plus vraiment ce que c'était, hein, au niveau de la qualité de cuisine, mais quand vous y étiez, c'était quand même, on pouvait dire, le meilleur restaurant thaïlandais de Paris. Est-ce que c'est une fierté pour vous de parce que à l'époque, quand le Blue Elephant ouvre en France, la cuisine thaïlandaise, on la connaît pas très très bien. Est-ce que c'est une fierté pour vous d'avoir fait un peu découvrir la grande cuisine thaïlandaise?
Oh, c'est une fierté, oui. C'est une très fierté, oui, parce que je trouve que j'ai gagné au moins de donner les meilleurs que les cuisines étrangères, les tables étrangères.
Oui, vous avez eu le prix Marco Polo, je crois.
Oui, hein, oui. Et après, j'ai eu les premières fois, ils ont, si j'ai bien compris, que les gommiaux, ils sont distribués à la Clé d'Or. Ben, oui. Pour les cuisines exotiques, mais nous...
En 97, oui, ouais. Une Clé d'Or Goemio, et puis le prix Marco Polo pour le meilleur restaurant de cuisine étrangère, c'était en 93. 13, ouais. Et puis, en 2010 aussi, hein, vous avez eu le prix... à l'époque, vous étiez où en 2010?
C'était, 2010...
C'était dans votre restaurant à vous, qui portait votre nom, c'est ça?
Oui, c'est au Faubourg Saint-Honoré.
C'est le très sérieux guide Pudlowski, le guide de notre ami Gilles Pudlowski, hein, qui vous avait décerné le prix de la meilleure table étrangère. Alors... Beaucoup de journalistes, quand on lit leurs articles concernant les différents restaurants où vous avez été chef ou chef et propriétaire, beaucoup de journalistes gastronomiques disent de votre cuisine qu'elle mériterait au moins une étoile. Étoile que vous n'avez jamais eue, est-ce que vous pensez qu'il y a un petit peu, bon, je ne parlerai pas de racisme, mais est-ce qu'il y a un chauvinisme français qui fait qu'on donne une étoile plus difficilement à une table étrangère qu'à une table française?
J'ai bien compris, oui, parce que comme on me dit que les guides Michelin, ils sont plutôt spécialistes cuisine française, oui, que cuisine étrangère, mais c'est normalement, il faut que nous, moi, je dois faire la demande, faire dossier pour envoyer Michelin, ouais. Guy Michelin pour bien voir quoi. Pour moi, c'est pas des trucs importants. Pour moi, c'est important. Ouais. Pour moi, c'est plus important, c'est les. J'ai les étoiles, sur le plein étoiles dans le restaurant. Tous mes clients, c'est mon étoile.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Hein, chez vous, les étoiles sont dans la salle.
Voilà,
elles sont assises à table.
Voilà, c'est plus important pour moi. Et voilà, mais moi, à un moment, je suis fierté. Les jours que j'ai eu un client qui est venu, en sortant, il me donnait un journal. Il me dit, tiens, vous êtes mérité. Je lui dis, mais c'est quoi? Mais gardez sur la page. Quand je le gardais, c'est une grande mot, c'est marqué... Otsomat du Castel thaïlandais, dit, oh, je suis pas encore, c'est Figaro Scope. J'ai dit, ben, je suis content, mais je suis très loin de Monsieur Ducat, vraiment, c'est un maître, c'est pas.
Bah oui, mais vous êtes aussi un maître en matière de cuisine thaïlandaise, soyez pas trop modeste non plus. Alors, on commence à voir des restaurants étrangers étoilés en France, et notamment à Paris, où il y a une vraie diversité culinaire. Mais alors souvent, c'est des restaurants qui sont dans des grands hôtels, hein, dans des palaces 5 étoiles. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'inégalité parce que... en fait, est-ce qu'on met pas une étoile surtout pour le décor parce que c'est dans un palace, voyez? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de poids de mesure, hein, une certaine inégalité? Alors je vais pas vous faire balancer sur le Michelin parce que c'est pas le but du jeu, parce que évidemment vous avez un intérêt à ce qu'ils viennent vous voir et à ce qu'ils parlent de vous, mais est-ce que vous diriez que c'est quand même un peu plus difficile pour un chef qui fait de la cuisine étrangère d'obtenir une étoile que pour un cuisinier français?
Ouais, je trouve, ouais, je pense, oui.
Et peut-être aussi d'ailleurs que les d'ailleurs ça c'est une chose dont j'avais déjà parlé dans une émission sur le Michelin. Je pense aussi que le profil des enquêteurs Michelin, ils sont anonymes toujours, on ne sait pas qui c'est, mais moi j'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs. C'est vrai qu'en général, ils ont des profils qu'ils sont extrêmement compétents en cuisine française, mais souvent ils ne connaissent pas grand-chose à la cuisine étrangère. Donc peut-être aussi qu'on ne donne pas d'étoiles à des restaurants étrangers parce qu'on a peur de ne pas savoir si on le fait correctement ou pas, quoi.
Ouais, moi je pense que c'est ça. Parce qu'au moins. Ça, c'est. On m'a expliqué, c'est la même chose que vous expliquez. Il dit que voilà, comme les journalistes, les critiques, ils sont plutôt spécialistes cuisine française, ouais, qu'étrangers. Mais par contre, quand je remarque à étranger, le Michelin à étranger, c'est obtenu plus facile que en France.
Oui, d'accord. Oui, oui, effectivement. Il y a même des adresses à Hong Kong, par exemple, où il y a des adresses de street food qui ont une étoile Michelin.
Mais en Thaïlande aussi.
Ça, en Thaïlande aussi, oui, ça, d'ailleurs, depuis peu. Et ça, ça n'existe pas encore en France. Hein. Alors, ça viendra peut-être, mais en tous les cas, la France, ça reste la chasse gardée du Michelin pour l'attribution des étoiles. La street food, on n'y est pas encore. Alors, donc, j'en reviens à votre restaurant Ban Nat que vous avez ouvert récemment. Comment votre cuisine elle a évolué depuis le Blue Elephant?
Mieux.
Qu'est-ce que vous faites différemment aujourd'hui, par exemple?
Vraiment surtout les curry, tout ça, j'ai fait. C'est plutôt vers la crème du curry au lieu c'est les curry en fait. C'est les curry verts.
Et la façon de travailler, les pâtes d'épices.
Les pâtes d'épices où j'ai fait plutôt vers le. Tout le monde croyait c'est travailler avec la crème, mais c'est du lait coco, c'est pas la crème parce que vraiment, il n'y a pas de lune, il n'y a rien, il y a vraiment les éléments crémeux purs quoi.
Très bien. Bon, on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver dans un court instant. Restez avec nous, on vous retrouve dans une poignée de minutes pour parler de la cuisine fusion dans Dessus de Table et avec Roland Durand qui vient de nous rejoindre. À tout de suite sur Beurre FM.
Dessus de Table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Retour dans Dessus de Table sans Philippe Robichon aujourd'hui, mais avec deux invités de choix pour parler de la cuisine fusion, puisqu'il s'agit de Hot Sombat, restaurateur et chef de cuisine au Ban Nat à Arcueil, et de Roland Durand qui nous a rejoint pendant la pause, un chef cuisinier à la carrière impressionnante et même couronné du fameux titre de meilleur ouvrier de France, les MOF comme on dit, en 1982. Ça ne nous rajeunit pas, Roland. Hein, et aussi et surtout, grand précurseur de la cuisine fusion. Alors, Roland Durand, je vous saute dessus dès votre arrivée. La cuisine fusion, c'est quoi?
C'est comme son nom l'indique, la fusion de différents styles, de différentes techniques.
Voilà, donc en fait, on peut dire que c'est, pour en France, la cuisine fusion, c'est une cuisine française qu'on va agrémenter d'épices.
Même si elle a toujours été bâtie sur. On sait bien qu'en France, presque tous les produits qu'on utilise, basiquement, venaient d'ailleurs, comme les tomates, les pommes de terre, et ainsi de suite. La liste est longue. Donc là, par contre, c'est avec par la grâce des voyages, si on peut dire, on se confronte directement à des cuisines dans leur jus. Peut-on dire, et qui sont très très différentes, mais très très plaisantes, très séduisantes aussi, envoûtantes.
Bon, alors si vous avez des questions à poser à nos invités sur la cuisine fusion, vous nous appelez 01 53 48 3000, je répète 01 53 48 3000. Alors, pour vous présenter, Roland Durand, je disais que vous aviez une carrière impressionnante, hein, vous avez un CV long comme le bras, on peut dire. Alors, vous avez, puis dans des maisons prestigieuses, hein, vous avez été en formation à la Voile d'Or à Saint-Jean-Cap-Ferrat, vous avez travaillé au Casino d'Aix-en-Provence, à l'Intercontinental à Paris, le Savoy à Londres, le Carlton à Cannes, le restaurant gastronomique de la Tour Montparnasse, qui à l'époque était gastronomique, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Le Royal à Deauville, et puis chef au Sofitel Sèvres, une étoile, votre première étoile, hein, au Relais de Sèvres, meilleur ouvrier de France en 82, et vous avez même repris le Camélia de Jean de la Veine à Bougival, une adresse mythique.
Oui.
Je rappellerai aussi le Pré Catelan, hein, où vous avez eu deux étoiles. Et puis votre dernière affaire parisienne, le Passiflore en face du mythique Jamin de Joël Robuchon, hein, une étoile au Michelin. Et alors, vous la cuisine fusion, c'est vraiment votre truc. Vous êtes même dire qu'on a inventé la cuisine fusion. Je ne sais pas s'il peut y avoir un inventeur cuisine. On dit que jamais rien n'a été inventé, mais que tout s'est transformé. Dans les années 70, il y avait la nouvelle cuisine qui voyait le jour. C'était un mouvement culinaire, hein, pour nos auditeurs, qui avait été lancé par quelques grands chefs comme Michel Guérard, Alain Sandrins, les frères Trois Gros, Alain Chapelle. La démarche était assez nouvelle, et c'était aussi avec le soutien actif d'ailleurs de quelques critiques gastronomiques, au premier rang desquels Henri Gault et Christian Millot, hein, créateurs du guide qui porte encore leur nom aujourd'hui. Est-ce que la cuisine fusion a elle aussi été portée et défendue par la presse gastronomique, et si oui, par quel journaliste?
C'est pas du tout le il y a pas eu c'est pas un mouvement qui se fait de la même façon. C'est
ouais.
pas, la nouvelle cuisine, c'est quand même un mouvement de fond qui a changé beaucoup beaucoup de choses. Elle s'inspire beaucoup de la cuisine classique française, la nouvelle cuisine. Mais on allège, on
s'allège. Oui, on parle de cuisine néoclassique aussi, ouais, pour plus parler de nouvelle cuisine, puisqu'elle est plus nouvelle, hein, on parle des années 70.
Oui, oui, lorsqu'on voit Michel Guérard qui commence à travailler beaucoup les légumes. Ce qui a aidé la démarche, c'est que Guérard aussi avait une cuisine minceur en parallèle, donc ça amène à d'autres recherches. Et je pense que c'est lui qui a le plus contribué à alléger la cuisine classique française.
Alors, à quelle période vous découvrez la cuisine française et la gastronomie française?
La période, c'est soit on est 90.
D'accord.
Ouais.
Et alors, est-ce que c'est un choc pour vous? Parce que la cuisine française est très différente de la cuisine thaïlandaise, même si tous les deux, vous arrivez à faire cohabiter tout ça. Mais ça demande un certain talent. C'est des cuisines assez éloignées. Qu'est-ce que la première fois que vous mangez dans un grand restaurant, la première fois que vous mangez de la grande cuisine française, qu'est-ce que vous vous dites? Ça vous inspire quoi?
Pour moi, la première chose, ça explique très sage assiette. Quand je vois ça, waouh! J'ai même pas envie de manger l'assiette.
Oui, c'est l'un de vos points forts aussi, c'est le dressage.
Et après, c'est à partir de là, j'ai dit, quand je. C'est ça de donner un peu de clic. J'ai envie toujours la cuisine thaï, mais présentation, les mêmes choses que cuisine française. Parce que quand je vois ça, waouh, ça donne envie en fait. Mais chez nous, on a des goûts, on a tout. Mais parfois, on fait sauter, on met dans une assiette, allez, on mange, on sort comme ça. Parfois, ça donne pas envie, mais quand on goûte, c'est très bon, mais parfois ça donne pas envie, quoi. Mais c'est ça, quoi. Les cuisines françaises, c'est le contraire. Dès qu'ils passent devant, la première chose, le table côté, quand on mangeait la cuisine dans le restaurant étoilé français, comme on passe l'assiette, la table.
On regarde l'assiette du voisin d'abord.
La première chose, comme on ne connaît pas bien la cuisine française, on demande les serveuses, c'est quoi là?
Oui, il faudrait la même chose que le monsieur là.
C'est tout souvent comme ça.
Alors, justement, vous parlez effectivement, vous dites ça va dans les deux sens, et effectivement, ça va dans les deux sens, parce que donc vous êtes un Thaïlandais expatrié d'abord en Belgique et puis en France, et vous, Roland Durand, aujourd'hui, vous habitez à Pattaya, je crois.
C'est ça, oui.
Alors, d'où vous vient cet amour de la Thaïlande, Roland Durand?
J'ai connu la Thaïlande. Mon premier voyage, c'était en 76. J'ai fait une promotion à l'hôtel intercontinental. C'est là que j'ai découvert justement la cuisine thaï. Il n'y avait pratiquement pas de restaurant thaï à Paris en 76 encore. Je ne sais même pas s'il y en avait un seul. En tout cas, je ne les avais pas expérimentés. Donc là,
alors, le premier, c'est en 77, c'est Chiang Mai, rue Frédéric Sauton.
L'année d'après.
Donc, vous voyez, vous étiez dans le vrai.
Oui, tout à fait. Bon, c'est bien de ne pas mentir. Ça, c'est le premier choc de la cuisine de la Thaïlande. J'y suis retourné ensuite. Ça m'a donné envie d'y aller dès que je pourrais y aller, quoi. J'y suis allé tantôt professionnellement, tantôt par mes moyens, en vacances. Puis en 90, j'ai eu l'occasion, on a décidé d'adopter une petite fille thaïlandaise qui a 29 ans aujourd'hui, qui est toujours en Thaïlande, mais qui va revenir.
L'orchidée a bien poussé.
Oui, très bien. Et qui va revenir à Paris au début de l'année prochaine. Voilà, ça fait beaucoup d'éléments affectifs, si on peut dire.
Oui, et puis alors d'ailleurs, on en parlait pendant la pause, hein, mais petite anecdote, moi je vous connaissais de réputation il y a 30 ans, mais je ne vous avais jamais rencontré, et on s'est croisés où? En Thaïlande, à Hua Hin, au bord d'une piscine.
Hein, ça, il faut le faire. Hein,
au Sofitel Railways.
Un signe du destin. Hein.
Le monde est petit, et on se retrouve 30 ans après, ça ne nous rajeunit pas.
Ouais.
J'aurais peut-être pas dû dire que c'était il y a 30 ans. Hein.
Non, c'est...
je me suis flingué le moral.
Faut pas mentir, c'est pas beau.
Oui, oui, et puis en plus comme on dit, hein, avec les cuisiniers, dans l'assiette, ça ne mange jamais. Hein.
Exactement.
Voilà. Alors, vous parliez justement de Michel Guérard, vous citiez Michel Guérard. À la fin des années 70, Michel Guérard, mais aussi Alain Sandras, ils voyagent en Chine. Puis il y a un certain Joël Robuchon qui, lui, découvre le Japon, qui a été chef du Benkei à l'hôtel Nikko, d'ailleurs, peu après. Mmh. Et à leur retour dans leur bagage, à la place des habituels bibelots et des souvenirs traditionnels, eux, ils ramènent des ingrédients, chef, hein, des épices, mais aussi des idées et des techniques de cuisine. Est-ce qu'à cette époque, on est en train de vivre une forme d'évolution, un glissement de la nouvelle cuisine qui va poser les fondations de la cuisine fusion un peu?
Il y a un peu de ça, oui, tout à fait. Les cuisines, lorsqu'on parle de la cuisine asiatique, ça n'a aucun sens. Hein, ce sont des cuisines asiatiques.
C'est oui, ah bah
on
oui.
disait la cuisine européenne.
La cuisine occidentale,
oui. Voilà. Donc les cuisines asiatiques sont très différentes les unes des autres, au moins pour certaines. Le Japon, cuisine japonaise, cuisine cantonaise, cuisine thaï, c'est trois cuisines tout à fait différentes.
Différent, ouais.
Ouais, alors justement, ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce que aujourd'hui à Paris, on peut trouver des restaurants de presque toutes les cuisines du monde. C'est aussi oui. le cas des grandes villes comme Londres ou New York. Mais quand on connaît bien ces cuisines étrangères, on se retrouve souvent déçu parce qu'elles manquent cruellement d'authenticité,
oui.
hormis dans des maisons comme celle d'Ot Sombat. Et on voit d'ailleurs à l'heure actuelle que la majorité des restaurants thaïlandais, vietnamiens ou japonais sont tenus par des Chinois. Donc là, on parle effectivement du grand écart. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est un peu comme si un chef polonais se mettait à faire de la pizza. Alors, oui. quelles sont vos astuces à l'un et à l'autre, qui connaissaient bien les cuisines étrangères, pour détecter ces restaurants qui sont faussement authentiques, et quels conseils vous donneriez aux auditeurs pour les aider à faire le tri avant de réserver? Faut faire quoi? Faut consulter la carte? Faut regarder les avis d'internautes? Éclairez-nous un peu, donnez-nous vos trucs là sur ce point-là.
Moi, je pense qu'un restaurant japonais, la cuisine doit être faite par un chef japonais.
Ah oui, ça.
L'idéal dans la cuisine thaï, par exemple, comme la cuisine marocaine, qui sont des cuisines de parfum. J'ai souvent mieux mangé chez des cuisinières que chez des cuisiniers. J'en ai encore fait l'expérience récemment à Bangkok, dans un grand hôtel. À midi, on mange bien, parce que c'est la brigade des femmes. Et puis le soir, c'est les hommes qui y sont, et on mange moins bien, notoirement moins bien. L'exception étant Ot Sombat.
Évidemment, évidemment.
Merci, Roland.
Oui, mais bon, il y a son épouse Nat en salle, hein, oui. qui donne le contre-pied. Donc, il y a toujours une femme derrière un grand chef.
Tout à fait.
Souvent des grands-mères ou des mamans. Hein,
c'est vrai que la cuisine cantonaise, qui est une de mes préférées, est toujours faite par des hommes.
Parce
que
oui.
C'est une autre technique, c'est une autre approche.
Oui, mais en Chine, la cuisine chinoise est effectivement une cuisine d'hommes. Il y a très peu de femmes chefs.
Oui, oui. Comme l'était Chine, la cuisine française. Ouais. Quoique la cuisine française, il y avait deux canaux. Il y a la cuisine familiale qui était faite par les femmes. Et puis la cuisine...
Il y avait quand même Madame Brasier. Il y avait,
il y a eu quelques femmes, maîtresses femmes. Oui.
Qu'on appelait la mère quelque chose, toujours d'ailleurs.
Hein. Oui, toujours, pour bien signaler que c'était une femme.
Oui,
si on dit je vais chez Brasier, on croit qu'on va chez un homme. Si on
c'est
chez
ça.
La mère Brasier.
La mère Brasier, oui. Alors, je parlais de Michel Guérard et Alain Sandrins et de leur voyage en Chine, et tous deux ont ramené de Chine la pâte à wonton, hein, qui est une pâte faite à base de farine de blé et d'œufs.
Oui.
Et ils en ont fait des ravioles. Alors l'un avec du foie gras, l'autre avec du homard. C'est devenu un petit peu, à l'époque de la nouvelle cuisine, chacun leur plat signature. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des plats signatures, des plats emblématiques de la cuisine fusion?
Pas tellement, puisque c'est un fusionnement perpétuel.
Ouais.
Chaque fois qu'on découvre...
Un bouillonnement, on peut dire.
Un bouillonnement.
Ça plairait à William Bledeuil, qui fait beaucoup de bouillon, d'ailleurs.
Oui,
on en parlait avec Côte tout à l'heure.
Tout à fait, oui.
Oui, alors, si, peut-être quand même, un plat. Alors, parce que je vais vous contredire, Roland Durand, je vais me permettre. Je vais oser. Mais un plat, c'est d'un dessert, d'ailleurs, qu'on trouve à la carte de centaines de restaurants en France. Ce sont les nems en chocolat. D'ailleurs, en Thaï, on dit popia, on dit pas nems. Hein. Mais ce que peu de gens savent, Ot Sombat, c'est que c'est vous qui êtes l'inventeur de ces fameux nems au chocolat. Moi, j'en avais jamais vu avant vous. Alors, comment est-ce qu'elle est née, cette idée? Comment est-ce qu'un chef se dit un jour, tiens, si je mettais du chocolat dans des nems?
J'ai pas les idées parce qu'en fait, en fait, c'est l'idée comme ça parce que j'aime bien quelque chose de frit. Quand c'est comme je frit, je vois les chocolats, tout ça. Au départ, je commençais avec des glaces. En fait, c'est pas des nems, c'est pas du chocolat pur. Alors, l'année 90, j'ai commencé avec des glaces. Non, l'année.
Alors, comment on fait pour faire frire un nem et que la glace reste
En fait, moi, les techniques anciennes, moi, j'ai fait mon nem.
Norvégienne.
Non, oui, non, mais ça. je prends, je vais faire les petites boules moi-même, les glaces. Et puis, je mets bien très dur, congelé. Après, que ce sort. Boune par boune, puis rouler dans le pâte de nem, et bien j'ai remis dans le congélateur. À partir de là, quand j'ai envie, je les mets dans le friteuse bien chaud, et moi j'appelle chaud-froid au départ, parce que ça sort dans le friteuse très chaud, mais on est capable de mettre directement dans la bouche, parce que quand vous croquez, tout ces liquides froids qui explosent dedans. Et voilà.
Oui, là, faut pas oublier de sortir les nems de la friteuse, hein, sinon c'est la cata. Allez, on fait une nouvelle pause avant d'aborder la dernière partie de l'émission. Restez bien à l'écoute de Beurre FM. On revient dans une poignée de secondes avec nos invités Roland Durand et Ot Sombat. À tout de suite.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Oui, alors sans Philippe Robichon, mais avec nos deux invités, Dessus de table, ça continue. Roland Durand, le chef français amoureux de la Thaïlande, et Ott Sombat, le chef thaïlandais amoureux de la France. Hein, la boucle est bien bouclée. Quel beau plateau. Quel beau plateau pour vous parler de cuisine fusion sur Peur FM dans Dessus de table. Alors, juste avant la pause, on avait demandé à Ott Sombat, l'inventeur des nems au chocolat, qui nous a dit d'ailleurs pendant la pause que à la base, il faisait ça avec de la glace. Hein. C'était des nems avec une crème glacée à l'intérieur, puis ça a évolué en nems au chocolat, un plat qu'on retrouve à la carte de santé. Qui n'a pas vu un jour des nems au chocolat sur une carte des desserts? Alors, j'en ai goûté déjà, ils ne sont pas aussi bons que les vôtres, hein, au Tsumbat. Donc, si vous voulez goûter, vous les faites les nems au chocolat au Banat?
Oui, on l'a fait, oui.
Ah, bah voilà, bon, donc vous savez où il faut aller pour manger des vrais nems au chocolat.
On peut supprimer ça, la
version.
Surtout pas.
La version originale. Oui, il y a des plats comme ça, d'ailleurs, l'un à l'autre, parce qu'on renouvelle sa carte régulièrement quand on est chef de cuisine et quand on est créatif. Il y a des plats comme ça quand vous les retiriez de la carte l'un ou l'autre. Il y avait une révolution, les clients venaient avec des banderoles devant le restaurant.
Oui, c'est vrai, ça, c'est quelques plats qu'on ne peut pas bouger.
Ouais, alors j'ai un chef qui me disait un jour, il dit même, des fois on enlève un plat de la carte parce que le produit principal du plat n'est plus de saison. Oui. Et il y a des clients qui râlent, qui disent mais c'est pas grave, mettez du surgelé, mais on veut ce plat-là. Là c'est quand même exagéré.
Pas les suivre, hein. Pas les écouter. Là.
Bon, alors on parlait de la naissance du nems au chocolat, mais j'ai envie de vous demander à tous les deux, plus généralement, quelle est la genèse d'une recette de cuisine fusion? Est-ce que tout démarre quand un chef il découvre un nouvel ingrédient ou quand il goûte un nouveau plat aux saveurs exotiques? Comment naît un plat de cuisine fusion, Roland, pour commencer?
Ça peut être par curiosité. Il y a un plat thaï que j'aime beaucoup, c'est le som tam. C'est une salade de papaye verte bien relevée.
Papaye verte très relevée qu'on trouve un petit peu en Thaïlande aussi. Au Vietnam d'ailleurs, il y a une variante au Vietnam.
Pas très longtemps, j'ai fait une extrapolation de ça un petit peu avec du chou rouge et ananas. Et puis après, avec le même assaisonnement, ça marche super.
Bon, alors, et vous, comment est-ce qu'il vous arrive effectivement de goûter un plat dans un restaurant français et de vous dire, il faut que j'en fasse quelque chose avec des saveurs thaï?
Mais je le fais, mais j'aime bien, mais avec par exemple les cuisses de canard confit, que j'ai goûté, j'aime bien. Mais
ah oui, ça, le confit de canard, on en trouve pas en général dans la cuisine thaïlandaise.
Il y a des canards.
Il y a des canards, oui. Bah, d'ailleurs, on mange des curry de canard qui sont délicieux en Thaïlande. Ouais.
Mais je le fais avec des cuisses de canard confit façon thaï, quoi, façon moi. Quoi. Mais je remarque beaucoup, les clients, ils sont étonnés, ils ont dit, c'est très bon. Ils ont dit, il y a beaucoup de parfums, en fait. Mmh. Je vais faire, c'est mélange, les parfums, tout ça.
Ah, parce que la cuisine thaï, dans laquelle il y a beaucoup de jeux de saveurs, mais il y a aussi des jeux de textures. Hein, on manie souvent le croquant, etc. C'est vrai que le fondant du confit de canard avec des ingrédients un peu croquants, il y a beaucoup de pickles dans la cuisine thaï. Ça peut être effectivement très sympa. Ça vous donne des idées, Roland Durand?
Oui, tout à fait.
Alors, justement, moi, ça me donne envie de vous poser une question collégiale à tous les deux. Alors, Ott Sombat, pour commencer, quel est votre plat français préféré? Est-ce qu'il y a un plat que vous aimez par-dessus tout dans la cuisine française?
Oh, mais je l'aime presque tout. je suis pas référente quoi que ce soit. Je l'aime tout, moi, cuisine française, je l'aime tout. Quoi.
Et vous, alors vous, Roland Durand, un plat thaï qui a vos faveurs par-dessus les autres?
Le premier qui m'a percuté, c'était la célèbre Tom Yam Kung.
Ah oui.
Qu'on voit décliner, pas toujours très réussi. Ah,
même souvent pas bon du tout. Ouais. Je le disais tout à l'heure avec tous ces restaurants thaï ou vietnamiens ou japonais tenus par des Chinois.
Pas le feeling pour le faire. Mais le Tom Yam, c'est une grande chose. Le dessert, le mango sticky rice. C'est une pure merveille, ça, l'accord du riz qui est encore tiède avec
Alors, mango sticky rice, hein, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est du riz gluant avec du lait de coco et de la mangue. Ouais. Et ça, c'est servi tiède. Hein.
Oui,
c'est un dessert, effectivement, thaï. Alors, moi qui ne suis pas du tout sucré, je suis là pour poser des questions, pas pour raconter ma vie, mais je dois avouer que pour moi qui ne suis pas un amateur de sucre, c'est vrai que les desserts thaïlandais sont souvent peu sucrés. Oui. Et j'en mange bien volontiers. Il y a beaucoup de desserts à base de bananes aussi. Et puis le fameux flan thaï qui est vraiment délicieux. Un flan grillé à la coco.
Tirant, là, dans la petite courge. Ça, c'est une très bonne idée.
C'est vrai que... Alors, d'ailleurs, c'est un des rares pays d'Asie, je trouve, la Thaïlande, où il y a des vrais bons desserts. dessert. Hein.
Oui,
si
vrai.
Vous cherchez dans la cuisine chinoise, dans la cuisine viet, il n'y a pas tant de
non,
desserts.
Il n'y a pas les mêmes choses.
Oui. Alors, au Vietnam, les desserts, c'est plutôt des boissons. Hein. Il y a le trois couleurs, des choses comme ça.
Oui, oui. Non, non, c'est le pays asiatique de la, qui a des bons desserts. En Inde aussi, il y a quelques gulab jamun.
Gulab jamun, les petites boulettes de lait frit, là, oui. Ça, c'est très bon, ça.
Là, parfumé à la cardamome. Là,
et le kulfi.
Le kulfi, bien sûr.
La glace à la pistache.
Mais les desserts que je vais faire là, au restaurant, je ne peux pas l'enlever depuis de Blue Leafen, tout ça. Je ne peux pas l'enlever. On demande tout le temps, c'est les desserts qu'on vend. Les gens qui demandent plus, tout le temps, quoi. Demandent tout le temps, c'est ça s'appelle taco.
Oui.
Les crèmes Chatendo ou les cocos.
Ah, alors ça c'est pas commun effectivement, oui.
Non, et là c'est vraiment ici ça marche. Hein. En fait, le feuille avec on travaille avec le feuille pandanus.
Ah oui, les feuilles de pandanus qu'on enveloppe voilà. Du poulet dedans aussi pour le faire cuire dans la cuisine.
Exactement, mais
ça c'est une de mes entrées préférées en Thaïlande. C'est les moi je le mange, je me le fais servir en plat d'ailleurs. Oui. Vous me faites une double
cette
entrée.
Cette feuille-là, on la cuit dans le riz aussi dans le riz. Le sticky rice ou dans certains riz parce qu'elle a un peu un goût de riz. Elle donne le parfum, en fait.
Renforce. Et puis on peut frire des aliments à l'intérieur parce qu'elle résiste très bien à la friture et à la chaleur.
Même vous y trouvez facilement dans le Tercy en Thaïlande. Comme on trouve partout dans le jardin, le pandanus, ils ont une poignée et ils vont mettre derrière la voiture. Et ça donne des parfums souvent quand je montais. Je dis,
on s'en sert pour parfumer aussi des pièces ou une
en Thaïlande, à Bangkok, vous voyez souvent là.
Oui.
Ouais, ils ont mis ça. Pour éviter d'acheter des parfums, ils ont dit.
Alors, vous voyez cet engouement là sur le plateau, chers auditeurs, quand on parle de cuisine, des cuisines étrangères et de la diversité des cuisines du monde, il y a toujours un engouement et ça ouvre l'appétit. Moi, je commence à avoir faim, je ne sais pas vous, mais pourtant, je déjeune pas tôt en général, mais ça ouvre l'appétit. Alors, justement, à une époque, on entendait souvent parler de world cuisine. Est-ce que pour vous, c'est un synonyme de cuisine fusion ou est-ce que c'est tout à fait autre chose, la world cuisine?
Je pense que c'est l'autre nom de la cuisine fusion. Ouais. C'est la cuisine de partout.
Oui, c'est un petit peu l'adaptation de la cuisine fusion aux États-Unis au niveau étymologique.
Oui. Le Mexique et les États-Unis, ouais, ça fait partie de la world cuisine. Donc pour moi, world cuisine, c'est la même chose que la fusion. On a changé de nom.
Non, c'est la même.
Alors aujourd'hui, parce qu'on parlait des modes successifs, hein, la nouvelle cuisine qu'on appelle aujourd'hui cuisine néoclassique, puis la cuisine fusion dont vous êtes l'un des précurseurs, Roland Durand. Et aujourd'hui, alors les restaurateurs, les chefs et même la clientèle et puis même les guides, les journalistes ne jurent que par la bistronomie. Alors ce mouvement culinaire qui utilise des produits bon marché mais qui les cuisine avec des techniques de chef étoilé, est-ce que du coup on peut dire que la bistronomie, de la même manière que la cuisine fusion est un peu une déclinaison de la nouvelle cuisine, enfin une évolution de la nouvelle cuisine chez certains chefs. Est-ce que la bistronomie peut avoir des liens de parenté avec la cuisine fusion?
On peut toujours faire du bistrot fusion, oui.
Ouais.
L'idée de la bistronomie, c'est de faire de la cuisine un peu tirée vers le haut, gastronomique, on trouve
avec des ingrédients peu coûteux, quoi.
Ouais, surtout avec moins de service, moins de peut-être pas le grand confort,
moins de chichi, moins de tralala,
oui. Et tout ça, ce qui permet de la rendre beaucoup plus accessible. Tarifairement parlant, quoi.
Haute Sombat, j'imagine que vous retournez régulièrement dans votre pays d'origine, en Thaïlande. Est-ce qu'il y a des nouvelles cuisines, des nouvelles modes culinaires, comme est-ce qu'il y a une bistronomie thaïlandaise ou est-ce qu'il y a une nouvelle cuisine thaïlandaise quand vous êtes en Thaïlande? Est-ce que vous découvrez des nouvelles choses qui ont évolué pendant votre absence?
C'est pas découvert, mais
je vous sens pas inspiré. Hein.
C'est pas ça parce que pour moi c'est du coup ils ont fait plein de choses, mais je trouve c'est pas le sang que je l'aime, quoi, parce que c'est.
Oui, vous quand vous retournez en Thaïlande, c'est pour renouer avec la vraie cuisine traditionnelle. Ouais. Donc vous n'allez pas forcément dans des endroits où on revisite.
Quand j'ai retourné, il y a des amis qui voulaient amener dans un endroit qui veut manger le tom kha kai moderne. Mais c'est
ça c'est la soupe pour les auditeurs qui ne connaissent pas. C'est la soupe avec le poulet et le lait de coco.
Voilà. Ouais. Mais on nous sert en poudre. Moi je dis, mais attends, mais ça c'est pour aller à Panet Mark, quoi.
Ah, il y a la cuisine moléculaire thaï maintenant.
Oui, mais j'ai dit, non, c'est pas. J'ai dit, mais.
Ferran Adrià n'a qu'à bien se tenir. Hein.
Oui.
Et Hervé Tisse aussi.
Les scientifiques.
Ouais. Alors, Justement, alors on parlait tout à l'heure des origines de la cuisine fusion qui vient fin 70, début 80, avec notamment Roland Durand qui est l'un de ses précurseurs. Mais alors si on remonte un petit peu dans l'histoire, à la fin du 19e siècle, il y avait des bateaux entiers de main-d'œuvre japonaise qui débarquaient en Amérique du Sud pour participer à la construction des chemins de fer. Et ces expatriés qui ne trouvaient pas tous les ingrédients auxquels ils étaient habitués pour faire leur cuisine japonaise traditionnelle, ils ont essayé de recréer leur cuisine japonaise avec des produits locaux. Alors aujourd'hui, on appelle ça la cuisine Nikkei. D'ailleurs, Nikkei, en japonais, ça veut dire expatrié. Alors, est-ce que cette cuisine Nikkei, qui est très à la mode en ce moment en France, est-ce que c'est pas l'un des premiers exemples de cuisine fusion un peu dans l'histoire de la cuisine, à votre avis?
Oui, je pense qu'il y en a toujours eu. À chaque fois qu'on rencontre un pays ou une nouvelle culture, il y a des échanges qui se font. Si vous lisez le guide culinaire d'Escoffier, vous trouvez le curry, vous y trouvez les zakouski, la Russie, là, vous y trouvez... Il y a beaucoup de choses. Bon, c'est un peu refrancisé à l'époque, parce qu'il fallait toujours... Mais chaque rencontre crée une fusion, quoi.
Hein. Ouais, Escoffier, puis dans le dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, il y a aussi quelques clins d'œil.
Tout à fait.
Alors d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, Roland Durand, vous avez repris le camélia créé par le grand Jean de Lavenne à Bougival, à qui vous avez rendu une étoile. Est-ce que vous saviez que la dame au camélia, Alexandre Dumas, l'a rencontrée au camélia de Bougival?
Peut-être bien qu'il m'a raconté ça.
J'ai lu ça quelque part, vous voyez, en préparant l'émission, et du coup, je me suis dit, tiens, voilà un exemple historique, puisque Alexandre Dumas, peu de gens le savent, c'était un grand auteur, effectivement, mais il a écrit aussi le premier dictionnaire de cuisine, un peu l'ancêtre du Larousse de cuisine, on peut dire. Alors, puisqu'on parle du camélia, il y a beaucoup de chefs qui ont fait leur classe au camélia, qui a été créé par Jean de Lavenne. On peut citer Michel Guérard, Alain Sandrin, Joël Robuchon, Jacques Chibois, Bernard Loiseau, un beau casting. Comment est-ce qu'on récupère un tel héritage? Est-ce qu'on sent une pression supplémentaire sur les épaules quand on reprend une institution comme ça?
Oui, forcément, il y a quand même de la pression.
On sait qu'il y aura
des comparaisons, on sait qu'on est attendu au virage. Mais bon, voilà, après, une fois que l'affaire est lancée, c'est lancé.
Ouais.
Bon, je ne l'ai pas gardé très longtemps parce que la sociologie du lieu avait changé et le lieu n'avait plus de terrasse. Donc, j'ai ouvert en hiver et la première très belle journée de mai, je me souviens que c'était un vendredi, on était pratiquement complet en réservation et ça s'est mis à annuler.
Oui, puis en plus, à cette époque-là, les gouvernements commençaient à faire la chasse aux automobilistes qui buvaient un peu trop.
Voilà,
et c'est vrai que faire la route jusqu'à Bougival et revenir après 3-4 verres de vin avec
ça
l'épaule d'Amoclès. C'est un
exercice périlleux.
Oui, tout à fait. Ça je peux comprendre.
Ouais.
Roland Durand, vous êtes un amoureux de la Thaïlande, on l'a dit, et d'ailleurs, depuis quelques années, vous vivez la majeure partie du temps à Pattaya. Alors, ça a un peu excité ma curiosité. Je me suis demandé ce que cuisinait un meilleur ouvrier de France multi-étoilé et expatrié au quotidien. Alors, vous faites de la cuisine française, vous faites de la cuisine thaïlandaise, une fusion des deux, ça tomberait bien, c'est notre sujet du jour. Ou est-ce que c'est madame qui cuisine?
C'est pas madame qui cuisine, c'est moi qui cuisine.
D'accord, bon.
Mais elle sait cuisiner, mais je vais plus vite. Et puis, il y a des choses que j'ai pas envie de faire à la maison qu'elle fait, donc il y a un échange qui sert.
C'est votre commis, c'est ça?
Non, la cuisine, je fais tout seul.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites à manger? Plutôt du thaï, plutôt des impros
Je mange simple. Hein, je mange simple. Si vous voulez, le matin, je mange que des fruits déjà. Il n'y a pas grand-chose.
Ça, c'est
la papaye est très bonne pour les articulations et tout. De la mangue et bananes, beaucoup de bananes.
Bon, écoutez, alors il nous reste très peu de temps. Je voudrais avoir le temps de reciter l'adresse déjà du restaurant d'Otsombat. Donc le restaurant Bannat à Arcueil, 61 avenue de la Plage. D'ailleurs, vous tapez B-A-A-N plus loin Nat sur Google, vous allez le trouver tout de suite. Donc excellent restaurant thaïlandais avec une cuisine thaïlandaise moderne. Roland Durand, meilleur ouvrier de France, alors qu'il n'a plus de restaurant. On le regrette d'ailleurs grandement.
Oui, je sévis dans quelques restaurants de manière itinérante.
Voilà.
En Asie du Sud-Est, oui.
Absolument. il est déjà temps de nous quitter. Oh là là, ça passe tellement vite. Dessus de table, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne soyez pas tristes. On se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, pour parler des bons produits et de ceux qui les cuisinent avec passion et talent. Merci à Roland Durand et merci à Otsombat d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de cuisine fusion. On vous embrasse. Passez un excellent week-end à l'écoute de Beurre FM.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.